Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur France Culture pour les conférences du Carême protestant. Durant toute la période du Carême, nous vous proposons une série de conférences sur les fondamentaux du protestantisme autour de cette idée forte de Luther, Coram Deo, vivre devant Dieu. Cette année, nous sommes en compagnie de Jean-François Braine, pasteur de l'église protestante Unie de France à la paroisse luthérienne Saint-Jean à Paris. Pasteur Jean-François Braine, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous intitulez cette cinquième conférence « La foi, un chemin possible, marcher sur les eaux ». On ne l'entend peut-être pas très bien, mais il y a un point d'interrogation après « marcher sur les eaux ». Alors, pourquoi ce point d'interrogation et pourquoi ce sous-titre ?
Alors, marcher sur les eaux, c'est bien sûr un peu un clin d'œil à cet épisode de l'Évangile que je vais commenter, où Pierre, finalement, à la suite de Jésus, tente de marcher sur les eaux. Et d'une façon plus symbolique, il me semble que la foi est effectivement un chemin, une marche. Et sur les eaux, si on comprend les eaux comme le chaos, finalement, hein, comme toutes les forces de la non-vie, ben finalement, c'est un peu ça aussi, la foi, me semble-t-il, cette espèce de marche un peu comme des funambules, hein, par-dessus le vide et le chaos, et pourtant, guidé par cette main. Et du coup, oui, je fais le pari que parfois c'est possible.
La foi, un chemin possible, marcher sur les eaux, point d'interrogation. Je vous laisse la parole, pasteur Jean-François Braine, pour ce temps de conférence.
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut, parmi toutes les nations. Ces deux premiers versets du psaume 67 recèlent une petite surprise. Il passe subrepticement de la troisième personne, que Dieu nous prenne en grâce, à la seconde, et ton chemin sera connu. L'écrivain et fin commentateur de la Bible, Éric De Luca, voit dans ce passage du « il » au « tu » l'acte de foi. Là se joue pour lui la question de la foi, alors même qu'il se définit pourtant comme un non-croyant. Il écrit « Je suis un homme qui ne sait pas s'adresser, qui ne sait pas tutoyer le livre et son auteur. » Le « tu » est le seul pronom qui convient à l'échange entre créature et créateur. De Luca, me semble-t-il, a raison. Il a perçu, intuitivement, l'essentiel. L'acte de foi est ce saut, ce passage de l'idée de Dieu, d'une spéculation sur Dieu, à une relation avec Dieu. Car c'est cela d'abord la foi, l'expérience d'une relation. Nous confondons spontanément la foi et le catéchisme, ou pour le dire autrement, l'expérience d'une parole qui peut illuminer toute une existence, et puis la mise en mots, le compte-rendu de cette expérience première, le système des convictions. Pourtant, la foi n'est pas d'abord adhésion à des croyances, à des dogmes, comme en une sorte de gigantesque QCM religieux, naissance virginale, cocher la case, véracité historique des miracles, cocher la case, résurrection de la chair, cocher la case, etc. Non, bien sûr que non, la foi se joue ailleurs, dans le fait d'être saisi et de se laisser saisir par une parole. La foi n'est pas d'abord une addition de choses à croire, mais une parole à vivre et à faire vivre. Bien sûr, il faut aussi rendre compte de sa foi, dans un esprit de cohérence. Cela est légitime et même indispensable, comme en une cartographie du croire. Mais je soutiens que cela n'est pas premier, ce qui est premier, c'est l'appel à vivre. Car Dieu est celui qui appelle et qui appelle tout homme. Car au commencement, il y a un appel, l'appel de Dieu sur chacune de nos vies. Oserais-je la formule ? L'homme est un animal vocationnel. Vouloir répondre à cet appel, se laisser travailler par lui, c'est cela la foi. Si nous répondons à cet appel, qui est toujours appel à être, alors que se passe-t-il ? S'interroge le pasteur allemand Dietrich Bonhoeffer, qui résista au nazisme et le paya de sa vie, assassiné sur ordre express d'Hitler. Il écrit « Que se passe-t-il ? Celui qui a été appelé abandonne tout ce qu'il a. Non pour faire quelque chose de particulièrement valable, mais simplement à cause de l'appel, parce que sinon, il ne pourrait pas marcher derrière Jésus. Et cet acte ne se voit attribuer en soi la moindre valeur. En soi, cela demeure parfaitement vide de sens, ne méritant pas qu'on y prête attention. On coupe les ponts et tout simplement, on avance. On se voit appelé et il faut sortir de l'existence qu'on a menée jusqu'alors, il faut exister au sens le plus strict du terme. Fin de citation. Exister, c'est-à-dire sortir de soi, non plus à la seule force de nos efforts, mais par la seule force d'une parole de grâce reçue. Et aller vers l'autre. Car cet appel nous fonde en communauté. Il nous fait sortir de la solitude et de l'indifférence. C'est cela aussi l'acte de foi. Cette mise en route, ce cheminement possible, promis, offert, vers et avec les autres. Car cette rencontre de la foi, cette rencontre à la seconde personne, entraîne immanquablement la découverte d'un autre pronom, le « nous » de la communauté, de ceux qui disent lorsqu'ils prient, et comme cela leur a été enseigné, « notre Père ». Non pas « mon Père », mais bien « notre Père ». Accorde-nous, disait Luther, de rejeter toute haine et tout esprit de discorde, pour vivre ensemble comme de vrais enfants de Dieu, disant en parfaite amitié, non pas « mon Père », mais « notre Père ». Mais revenons à la foi comme cheminement. Cette mise en route ne nécessite rien de particulier, sinon d'y acquiescer. Avec confiance. En français, le mot « foi » vient du latin « fides », qui a donné « fiancé », »,« fiançailles » et « confiance ». Ainsi, la foi est fondamentalement confiance en ce tout autre que nous appelons Dieu et qui nous appelle à être, par-delà l'échec, la souffrance et la mort. C'est là le cœur du cœur de la foi. Dans le grec du Nouveau Testament, foi se dit pistis. Et la pistis, c'est bien l'action de donner sa confiance, auquel correspond aussi un autre mot, peitomai, croire à, se fier à, se confier. Ainsi, la foi est fiance, confiance, bien avant d'être déclinaison en un système de conviction. Elle est le fait d'être saisie par une parole venue d'un tout autre que moi et qui me fonde alors dans l'espérance. Dietrich Bonhoeffer encore. L'optimisme chrétien n'est pas seulement une manière de voir la situation présente, mais il est une force vitale, une force de l'esprit. Là où d'autres se résignent, il a la force de garder la tête haute lorsque tout semble s'écrouler, de supporter les revers, de ne pas abandonner l'avenir à l'adversaire, mais de le revendiquer pour soi. Fin de citation. Ainsi, la foi est d'abord saisissement, arrachement même parfois, et mise en route avec le Christ qui a dit de lui-même « Je suis le chemin ». Car sur ce chemin de la foi, nous ne sommes plus seuls. Voilà le miracle de la foi. Un autre chemine avec nous, à côté de nous. J'aime ce passage des Évangiles où Jésus déclare « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Les exégètes se sont interrogés sur le sens de ce joug et ont découvert qu'au temps de Jésus, il était courant de parler du joug de la Torah, de la loi. Alors, dans un contexte polémique, Jésus voudrait-il remplacer le joug de la Torah par celui de l'évangile de la grâce ? Je pense pour ma part que cette interprétation est juste, mais qu'elle ne suffit pas. Car elle ne rend pas compte de ce que dit le texte tout simplement. Alors la question demeure, qu'est-ce qu'un joug ? Le joug est une pièce de bois qui couple ensemble deux animaux pour le travail. Hier les bœufs, et du temps de l'évangile, le plus souvent des ânes. Il faut que nous le sachions, le joug est une grâce. Pourquoi ? Parce que le joug, c'est ce qui répartit la charge sur deux paires d'épaules. C'est l'instrument qui sort l'homme de sa solitude. Le joug, avant d'être une image métaphorique de l'esclavage, est bien d'abord l'objet réel qui couple ensemble deux animaux pour le travail, pour que ce travail, justement, soit plus léger. Et si nous entendions les paroles du maître, dans leur sens le plus concret, le plus littéral ? La vie humaine est un labeur, croire même est une marche, incessante marche, dans ce travail sans cesse à reprendre de l'interprétation, mais à ce travail, nous ne sommes pas seuls, car un autre vient en partager la charge. Épuisés, souvent nous sommes et nous le serons, mais plus tout seuls. Qui est cet autre ? Qui est celui qui est avec nous sous le joug ? Le Christ dit « Prenez sur vous mon joug ». Ainsi, Jésus lui-même est le second sous le joug. Et s'il ne s'agissait que de cela ? Du quotidien de la vie où le Maître se propose comme compagnon, dans une proximité étonnante et incessante. Voilà pourquoi le joug est léger, parce que Christ porte la charge avec nous. Voilà l'acte premier de la foi, tenter d'accorder son pas à celui du Christ, afin que le fardeau soit plus léger. Bien sûr, nous trébucherons encore sur le chemin de la vie. Bien sûr, parfois la charge nous semblera insupportable. Bien sûr, nous douterons de nous, de trouver un but et même de Dieu. Et pourtant, nous ne sommes plus seuls et tout est transfiguré. Je viens de dire, bien sûr, nous douterons de nous-mêmes, de trouver un but et même de Dieu. Ici, une précision s'impose. La foi ne s'oppose pas au doute, comme on le dit trop souvent. Mais la foi se nourrit du doute. Oui, je crois en une foi qui doute, qui interroge, qui se met et se remet en question. Je ne crois pas à la foi dite du charbonnier, qui serait foi aveugle, exempte de toute interrogation. Je ne crois pas que la foi demande le sacrifice de l'intelligence. Tout au contraire. Michel Onfray, dans son petit traité de la théologie, affirme « Augmenter les lumières. Ce travail sur soi suppose la philosophie. Non pas la foi, la croyance, les fables, mais la raison, la réflexion correctement conduite. » Fin de citation. Par-delà la dimension pamphlétaire de ce texte, M. Onfray mélange tout et n'a rien compris à la foi. Car elle ne s'oppose pas à la réflexion, mais tout au contraire la suscite et la nourrit. Et il oublie l'histoire, et singulièrement l'histoire des idées. D'où vient donc la philosophie qu'il invoque? Il n'y a pas de philosophie des Lumières ex nihilo. Il oublie que cette philosophie s'est pensée justement par, avec et dans les grands corpus religieux, d'Averroès à Kant, de Platon à Spinoza, autant d'hommes que leur foi a aidé à penser et à construire l'idée même de raison. Croire et comprendre, les deux vont de pair et se donnent la main, comme déjà Augustin d'Hippone l'écrivait dès la fin du IVe siècle. Je cite « Cet homme a dit vrai quand il a dit « Je veux comprendre pour croire ». Et moi également, je suis dans le vrai quand j'affirme avec le prophète « Crois d'abord pour comprendre ». Nous disons vrai tous les deux. Donnons-nous donc la main. Comprends donc pour croire et crois pour comprendre. Voici en peu de mots comment nous pouvons accepter l'une et l'autre ces maximes. Comprends ma parole pour arriver à croire et crois à la parole de Dieu pour arriver à la comprendre. » Fin de citation. Mais revenons au doute. Le mot n'apparaît que deux fois dans les évangiles. La première avec l'apôtre Pierre et la seconde au moment de l'ascension du Christ. Écoutons le premier récit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14. Aussitôt, Jésus obligea les disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Et après avoir renvoyé les foules, il monta dans la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était là, seul. La barque se trouvait déjà à plusieurs centaines de mètres de la terre, elle était battue par les vagues, le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent affolés. « C'est un fantôme, disait-il, et de peur, ils poussèrent des cris. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » S'adressant à lui, Pierre lui dit, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. »« Viens, » dit-il. Et Pierre, descendu de la barque, marcha sur les eaux et alla vers Jésus. Mais en voyant le vent, il eut peur. Et commençant à couler, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus, tendant la main, le saisit en lui disant, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » J'aime ce texte, étonnant et déroutant, et peut-être pas si facile que cela à interpréter. Ce récit des disciples, perdus au milieu des vagues et de leurs peurs, se situe juste après celui de la multiplication des pains. Comme en un étonnant contraste à l'image de nos vies. Il y a quelques heures encore, quelques jours, quelques mois, c'est selon, c'était le temps du repas, de la paix, du partage, de l'abondance. Le maître est là, il fait reposer les disciples, nourrit la foule, et il y a du rab, du reste, plein de reste, tant de l'abondance, du bonheur et de la plénitude. Et puis survient la nuit. Le maître n'est plus là. Solitude. Le vent se fait contraire et c'est la peur qui s'invite. À l'image de nos vies où tout peut basculer en quelques secondes, annonce d'un diagnostic, téléphone apprenant la mort d'un être aimé, licenciement brutal, trahison. Nous connaissons bien, et cela quel que soit notre âge, ces brusques changements de temps. Heures d'abondance et de plénitude et subitement les vagues du malheur qui montent à l'assaut de la barque de notre vie. Alors pour tous, petits ou grands, croyants ou pas, c'est d'abord la peur, l'angoisse qui semble s'imposer. Et avec elle, l'isolement, l'enfermement, la solitude. À l'image des disciples qui sont seuls, cette nuit-là, sur le lac au vent contraire, face aux vagues assassines et impétueuses. Et notre réaction est souvent la même. Nous nous replions sur notre peur, nos malheurs, nos deuils, recroquevillés sur notre souffrance. Les vagues bouchent tout l'horizon, nous empêchant de voir que pourtant le rivage existe. Survient alors le Christ. Sur lui, la peur et la mort n'ont pas de prise. Il marche sur les eaux. Figure symbolique par excellence. L'étendue liquide, la mer, c'est, dans la symbolique biblique, le lieu de la mort, de la non-vie. L'humain n'est pas un poisson, il ne peut pas vivre dans l'eau. Jésus marchant sur l'eau, cela veut signifier que la mort, le chaos, n'ont pas de prise sur lui. Et j'ai alors envie d'ajouter « Super !» Mais, en fait, à quoi cela sert-il si cela ne change rien pour moi? Si je ne peux pas sortir de mon recroquevillement? C'est alors juste un fantôme, comme un fantasme dans la nuit. Mais là, la voix du Christ perce la nuit. « Courage, moi je suis là, ne craignez pas. » Courage. La traduction œcuménique de la Bible donne confiance. Pourtant, tarsaïté signifie courage, voire même audace. Mot rare qui n'apparaît que 7 fois dans tout le Nouveau Testament. Comme pour nous dire, ne te résigne pas. Jamais. Le plus grand péché est la résignation. Notre plus grand ennemi est la résignation. Pas la mort, pas le deuil, pas la souffrance, mais de s'y résigner. De sorte que l'opposé de la foi n'est pas le doute, mais bien la résignation. Et la voix de Pierre lui répond, « Puisque c'est ainsi, alors, moi aussi je viens. » Ici, un piège nous guette, celui de voir dans ce geste de Pierre une quelconque provocation, mise à l'épreuve ou bravade orgueilleuse. Non, j'y vois pour ma part le geste même de la foi. Il veut s'approprier cette parole, pouvoir lui aussi en vivre à son tour. Alors Pierre se jette à l'eau, il se mouille, il y croit, il y va, il veut vivre de cette parole-là, loin de la peur, de l'angoisse et des vagues meurtrières. Il veut vivre de cette parole-là. N'est-ce pas cela, la foi? Le juste, par la foi, vivra. C'est-à-dire parier sa vie sur une parole de grâce reçue et tout entier y confier son existence. Vivre de cette expérience. Et le docteur Martin Luther de s'écrier, les hommes qui n'ont aucune expérience de la foi chrétienne et qui n'ont jamais senti sa puissance en font une chose bien extérieure. Comment en parler convenablement? Comment comprendre même ceux qui en ont parlé si dans l'étreinte de l'épreuve et des tribulations, on n'a pas éprouvé ce qu'elle vaut? Quiconque, au contraire, en a goûté la vertu ne serait-ce lassé d'en parler, d'en écrire, d'y penser sans cesse? Elle est cette source d'eau vive dont parle Jésus-Christ, qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Fin de citation. Nobody knows all the trouble I've seen. And nobody knows but Jesus. Nobody knows all the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Yes, lots of trouble floating around these days. Seems like everybody's sick, sick, sick. And I'm right in there with them. That's
Well, there's one thing that's for sure. Ain't no use crying. Just get in there and pitch. Sometimes you need help. That's when you kind of look up, you know. Yes, sir.
Et pour Pierre, ça marche, si j'ose ce jeu de mots. Oui, Pierre marche sur l'eau. C'est-à-dire que l'espace de quelques secondes, de quelques minutes, la mort et la peur n'ont plus symboliquement le dernier mot. Et c'est encore cela, la foi. Refuser à la souffrance et à la peur d'avoir le dernier mot. Oui, mais voilà, le vent redouble. Et voyant le vent, dit le texte, Pierre s'enfonce. Car Pierre, ce n'est pas Jésus. Pierre est un homme, comme moi. Et l'expérience de la foi n'est pas magique. La force du vent, au contraire, reste là, puissante. Alors finalement, la peur aurait-elle toujours le dernier mot? Cela ne servirait-il donc à rien? Non, car voilà que Jésus tend la main à Pierre et le sort de l'eau. C'est cela l'Évangile, la main de Dieu tendue au monde. La main de Dieu tendue à chaque homme, la main de Dieu tendue à chaque femme, pour nous inviter à sortir de la toute-puissance de la peur, pour nous arracher à la toute-puissance de nos deuils, et nous inviter à placer notre vie devant une autre puissance, celle de l'amour, celle de la grâce, celle de l'Évangile, plus fort que la mort elle-même. Mais revenons sur ce qui provoqua le doute de Pierre. Il regarda le vent. Il regarda le vent au lieu de regarder au maître, ou au rivage, ou aux autres. Et si là était le secret? Ne regarde pas au malheur. Ne te recroqueville pas sur ta souffrance. Regarde au-delà, par-delà la tyrannie des apparences et des évidences. On n'apprend pas à marcher en regardant ses pieds. Voilà le secret. Apprendre à regarder plus loin, par-delà, malgré les souffrances. Et cela, malgré et peut-être grâce à nos doutes. Car allons plus loin encore et revenons à ces mots que le maître dit à Pierre en lui prenant la main. Souvent, nos traductions donnent « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et là, un piège terrible nous guette, celui de comprendre que le doute s'oppose à la foi et d'entendre ces paroles de Jésus comme un reproche. Pourtant, le texte grec donne littéralement « Petit croyant, pourquoi as-tu douté ?» Arrêtons-nous encore un instant sur ces deux expressions, « petit croyant » et « douté ». « Petit croyant », en grec, « oligopisté », n'apparaît que chez Matthieu, 5 fois. Et c'est toujours en une constatation gentille et dite comme avec tendresse dans la bouche de Jésus. Et puis une fois chez Luc, dans un des textes parallèles. « Petit croyant » s'adresse soit au pluriel, à l'ensemble des disciples, ou comme ici, au singulier, à Pierre seulement. Quant au doute, la seconde fois où le mot « doute » apparaît dans le Nouveau Testament, c'est au moment de l'envoi en mission des disciples, toujours chez Matthieu, au début du récit de l'Ascension. Nous sommes après la résurrection, les disciples voient Jésus, ils se prosternent, et le texte de préciser, « et ceux-ci doutèrent ». Et s'approchant d'eux, Jésus leur dit, « Toute puissance m'a été donnée, allez, et de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les, etc. » Ainsi, c'est sur le doute des disciples que ceux-ci sont pourtant envoyés. L'ordre de la phrase est essentiel, c'est sur ce doute que peut se faire l'envoi en mission. C'est tellement énorme que presque toutes les traductions ajoutent ce petit mot « certains doutèrent », comme pour disculper la majorité des disciples, en accusant d'autres. Mais le grec est catégorique « ils doutèrent », tous. Et c'est important, c'est essentiel, car cela vient définitivement casser cette terrible évidence que le doute serait l'opposé de la foi. L'opposé de la foi, c'est donc la certitude. C'est l'idole, ou la résignation, je l'ai dit. La foi, elle, se nourrit du doute, car le doute, c'est aussi notre humanité qui s'interroge sur la question de Dieu. C'est ce qui doit m'empêcher de tomber dans le piège du fondamentalisme. Mais attention, ici une distinction s'impose, car je crois qu'il y a doute et doute. Il y a un doute redoutable, c'est celui qui ronge Pierre dans l'eau, celui qui vient miner la confiance. Mais c'est dans notre condition humaine. À cela, Jésus répond, nous l'avons vu, en nous tendant la main et en nous relevant de nos peurs. Et puis il y a un bon doute. Le doute méthodologique, ce doute qui me conduit à toujours m'interroger, à ne jamais m'enfermer dans mes certitudes, qui peuvent très vite devenir mes idoles. Les douteurs n'ont jamais allumé de bûcher. La certitude aveugle, elle, allume des bûchers, provoque l'exode de population, au simple fait que d'aucuns ne croient pas comme il faudrait aux yeux de la majorité. Au XVIe siècle déjà, et bien avant Voltaire, le théologien protestant Sébastien Castellion s'écriait avec force dans un petit livre dont le titre déjà est tout un programme, « De l'art de douter et de croire ». Il écrit « Eh bien, si les chrétiens doutaient un peu d'eux-mêmes, ils ne commettraient pas tous ces meurtres, dont nécessairement ils auront à se repentir avant qu'il soit longtemps. » Fin de citation. Comme lui, je ne crois pas que Dieu aime les super-croyants, car cela peut vite se transformer en intégriste, suant la haine de l'autre. C'est la face ignoble, cachée, le revers de la médaille de la foi, le fondamentalisme sectaire, caricature haineuse du chemin de la foi, et qui menace toutes les religions, toutes sans exception. Ainsi, deux pièges nous guettent en une terrible alternative. Ou nous croyons trop, sans jamais nous interroger et nous remettre en question, et nous nous aveuglons, et nous risquons de devenir à notre tour des mercenaires de la haine, ou nous ne croyons plus en rien, et nous nous réfugions dans le cynisme et la désabusion, et nous perdons la confiance, l'espérance et la force même de vivre. Mais l'Évangile nous propose une autre voie. N'ayons pas peur de nos doutes, n'ayons pas peur de nous interroger, n'ayons pas peur d'être des petits croyants, mais de ces croyants quand même. Des petits croyants qui pourtant osent se jeter à l'eau de la vie dans la confiance et l'espérance avec la seule force d'aimer. Et cela sans nous résigner jamais. Certains que Dieu, par-delà nos peurs, nous tend la main de son amour. Comme le pressent encore Eri De Luca, le croyant n'est pas celui qui a cru une fois pour toutes, mais celui qui, obéissant au participe présent du Verbe, renouvelle son credo continuellement. Il admet le doute. Il expérimente l'équilibre, et l'équilibre instable avec la négation tout au long de sa vie. À nous de ne pas regarder toujours du côté du vent violent, mais aussi vers la lumière. Oh, bien sûr, nous doutons, et c'est normal, car nous sommes des petits croyants, des oligopistoï. Mais Dieu aime les oligopistoï, qu'il relève sans se lasser jamais de leur peur, car Dieu, lui, le premier, a cru et croit en nous.
Jesus gave me water. Jesus gave me water. I wanna let his praises swell. Jesus gave me water. Jesus gave me water. Jesus gave me water. And it was not.
Ainsi s'achève cette 5e conférence du Carême protestant avec Jean-François Brenne, pasteur de l'Église protestante unie de France, à la paroisse luthérienne Saint-Jean à Paris. Nous le retrouverons la semaine prochaine, toujours à 16h, pour la suite et la fin de ce cycle de conférences intitulé « Coram Deo, vivre devant Dieu ». Pour plus d'informations et pour retrouver les textes, rendez-vous sur les sites carême-protestant.org ou bien écrivez au Carême protestant, 27 rue de l'Annonciation, 75016 Paris. Vous pouvez également nous retrouver sur votre application préférée de podcast en tapant Carême Protestant. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation et à Olivier Dupré pour la prise de son. Une émission proposée par le Carême Protestant et la Fédération Protestante de France, présentée par Benjamin Bories. Restez à l'écoute pour la suite de vos programmes avec le Carême catholique. Bonne fin de journée sur France Culture. Gave water, Jesus gave water, Jesus gave water. I wanna let his praises swell. Jesus gave that woman water, gave her that loving less than water, water, and it was not in. Well, Lord, that woman left for shouting. There was no room for doubting that she had met a Savior who did her wonders tell. Every time she doubted him, she started to think about him, the man that gave her that water, Lord, and it was not in the well. Yes, gave her water, Jesus gave her water, Jesus gave her water. I wanna let his praises swell. Say we gave that woman water, gave her that loving less than water, 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 loving water, and it was not in the well.